Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Fabrice Denis, professeur, chercheur associé au CNRS, expert en IA et médecine de longévité. Stéphane Résimon, médecin spécialisé en médecine intégrative, expert en hormonologie et micronutrition. Le Nutri Talk Gala, samedi 13 juin, à l'Élysée-Biarritz, à Paris. Programme complet, intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr.
Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
Bienvenue dans cette émission Super Pouvoir avec évidemment Patrick Martini. Bonjour Patrick.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Et une émission un peu spéciale aujourd'hui. Alors vous nous écoutez sur Nutri Radio comme chaque semaine, mais aussi exceptionnellement sur Nutri TV et votre invité. C'est pour ça que l'émission elle est spéciale, non seulement parce qu'on est en plurimédia. Voilà, on a, ça y est, les gros moyens. Plus rien ne nous arrête.
C'est bientôt une grosse 4K, production.
En cinéma, grosse production. Et notre invité aussi du jour, qui est Martin Blachier. Bonjour Martin.
Bonjour.
Médecin de santé. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on a ici, grâce à vous, Patrick, sur cette émission Super Pouvoir, l'occasion d'avoir des pensées qui ne sont pas forcément convergentes sur la santé, notamment sur la prévention, parce que ça va être un des sujets. Alors on fera plusieurs émissions, hein, quitte à louer des studios très chers. Autant faire 70 émissions. Là, on est parti pour faire 80 émissions, on va rentabiliser au maximum. Mais en fait, voilà, déjà un débat et un sujet sur cette émission sur la place de la prévention et deux visions un peu opposées. Est-ce qu'on peut se poser comme question déjà, est-ce que la prévention, c'est juste réservé aux plus aisés? Est-ce que c'est un outil vraiment utile?
Alors, ce qui est d'autant plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'on revive, on ravive, en fait, ce qu'on appelle la disputation, ce qui était la capacité, en fait, d'avoir une pensée critique et de pouvoir voir comment deux points divergents pouvaient converger. Et donc, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on essaye dans Super Pouvoir un peu aujourd'hui.
Hein, c'est pas, c'est non, pas, vous avez dit, je vais lui en mettre plein la tête. En antenne, il a dit, tu verras, le Martin.
On va le tordre.
Non, mais déjà, Martin, merci d'avoir accepté avec l'invitation. Plaisir. Parce que c'est vrai, comme Patrick le dit, on a l'impression qu'on ne peut plus forcément faire de débats d'idées, échanger, être en désaccord. On a toujours l'impression maintenant qu'on doit être... voilà, chaque camp a son avis, on est retranché dans nos camps et là, c'est bien ce qu'on fait.
Notamment sur des sujets scientifiques, en fait. On a l'impression que la science, forcément, il n'y a qu'une seule vérité. En fait, il n'y a rien de plus discuté que la science. La science, ce n'est qu'une discussion permanente, en fait. C'est comme ça qu'elle se construit, c'est aussi ça qui motive la recherche de la vérité. Et la vérité, elle évolue au fur et à mesure de l'histoire et notamment des sciences. Et je trouve que ce sujet de prévention, il est très intéressant parce qu'en fait, c'est un sujet qui peut paraître simple, mais c'est un sujet qui est éminemment complexe, la prévention. Et on peut se poser plein de questions, de savoir qui doit la faire, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, quel est le rôle du médecin, quel est le rôle de chacun. Donc moi, je pense que c'est vraiment un sujet passionnant et effectivement, c'est possible qu'il y ait des points sur lesquels on ne soit pas d'accord. Déjà parce qu'on n'a pas la même formation, on n'a pas la même pratique, on n'a pas le même regard. Mais je pense qu'il y a quand même des points de consensus, mais pas que.
Alors des points de consensus, j'espère qu'on ne va pas en trouver tout de suite. D'abord, d'accord. J'espère qu'on va trouver surtout des points de divergence. Avec cette question, la prévention est-elle une illusion coûteuse? Vous, Patrick, vous pensez que la prévention, c'est indispensable?
Alors moi, oui, évidemment, ce que je pense, c'est que ce n'est pas une illusion coûteuse, c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut intégrer dans notre vie de tous les jours. La prévention, évidemment, à partir du moment où on a une première alerte, un premier problème qui va de toute façon se dégrader si on ne change pas notre hygiène de vie, eh bien je pense que c'est intéressant face à l'explosion des maladies chroniques aujourd'hui, des maladies cardiovasculaires. Eh bien, c'est toujours intéressant quand même d'utiliser en fait cette première alerte pour changer. Mais ce n'est pas à la portée de n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui a envie de changer. Et du coup, il faut que les gens soient accompagnés à changer de rythme de vie, à changer d'alimentation, à changer la manière dont ils font du sport ou qu'ils cuisinent. Et c'est tout un programme.
Alors c'est intéressant ce que dit Patrick. Parce que finalement, il va y avoir une conception qui va consister à dire que chacun est maître de ses comportements. Et donc, en fait, ça veut dire que je décide la façon dont je vis. Je décide la façon dont je vais ce que je vais manger, je décide mon stress, je décide plein de choses. Et puis, il va y avoir plutôt les sociologues qui vont dire qu'en fait, ce que vous mangez, votre stress, votre hygiène de vie dépend des conditions de vie que vous avez et donc dépend de la société, puisqu'elle ne dépend de vous-même. Et je dirais qu'il y a un débat philosophique aussi, c'est un débat qui se fait aussi chez les philosophes, de savoir finalement si on est stressé, si c'est à cause de nous ou si c'est à cause de notre situation. Est-ce qu'on est vraiment maître de notre situation? Et finalement, ce prolongement du développement personnel qui va consister à dire « je vais avoir une meilleure hygiène de vie », c'est comme si, quelque part, il balayait un siècle de pensée très imprégnée de sociologie qui a conduit à la lutte des classes, qui a conduit au fait d'essayer d'améliorer la condition de vie des gens. Et ça, c'est la première chose que je voudrais répliquer à Patrick. C'est qu'il y a quand même énormément de littérature qui montre que le premier déterminant de santé, c'est le revenu qu'on a à chaque mois. C'est-à-dire que si vous prenez les gens les plus aisés, les gens les moins aisés, les gens les plus aisés, ils ont une santé qui est à peu près... c'est un rapport de 1 à 10 en termes de qualité de santé entre les plus aisés et les moins aisés. Je pense que l'illusion, c'est de penser qu'il va suffire de donner de la communication aux gens les moins aisés pour leur dire bah, « c'est simple, soyez moins stressés, c'est simple, mangez mieux, c'est simple, arrêtez de fumer ». En fait, non. La réalité, c'est que ce n'est pas aussi simple. Et pour moi, le lien logique, il est « je suis pauvre ». J'ai une situation extrêmement précaire, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc je suis soumis à un stress qui est structurel. Et face à ce stress qui est structurel, je vais avoir des comportements qui vont avoir des comportements de recherche, de récompense rapide, notamment liés à la dopamine, au circuit de récompense. Et tout ce qui est dans notre environnement qui va pouvoir me donner de la récompense, je vais aller le chercher. C'est quoi ? C'est le scroll sur les réseaux sociaux, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est le sucre dans la nourriture, ça peut être des comportements sexuels. Et donc, quelque part, on peut aussi déculpabiliser les gens en leur disant « certes, vous avez des mauvais comportements, mais c'est aussi parce que vous êtes dans une situation qui est quand même pas facile. » Et c'est beaucoup plus facile qu'on est de l'autre côté et qu'on vit très très bien et qu'on n'a pas de stress de passer notre temps à réfléchir sur les graines qu'on va manger ou l'activité culturelle qu'on va se prévoir dans son programme. Donc ça, c'est la première, je pense, discussion à avoir. C'est est-ce que Patrick considère qu'en fait, on a toutes les clés en main et qu'il suffit d'avoir un naturopathe ou un spécialiste de la prévention qui nous dit comment il faut faire et puis on n'a plus qu'à appliquer.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet, c'est vrai que la santé naturelle a un coût. Cela dit, on voit que la santé aujourd'hui, elle se dégrade. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes d'obésité, de diabète, de manie cardiovasculaire. On ne peut pas nier le fait que les maladies chroniques explosent. Donc, et puis, il faut regarder aussi dans l'histoire, on n'a pas toujours été en aussi mauvaise santé globalement. On va dire, avec ces problèmes chroniques. Même, je crois que l'électrocardiogramme a été inventé dans les années 1910-1911, je crois. Et c'est vrai que celui qui l'a inventé, à l'Académie de médecine, tout le monde rigolait. Il disait, non mais il n'y a pas de problème cardiaque, pourquoi tu as fait ça, ça ne sert à rien. Donc, dans une période où il y avait peu de choses, dans une période où les gens étaient pauvres, il n'y avait pas de maladies cardiovasculaires au niveau où il y en a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'obésité au niveau où il y en a aujourd'hui.
Ça, c'est sûr. L'obésité, c'est une épidémie qui a commencé dans les années 80 aux États-Unis et 90 en Europe. Et c'est vrai que l'obésité est quelque chose qui n'existait pas avant les années 50. Alors, il y avait des gens qui étaient très gros, mais l'obésité en tant que pandémie mondiale, elle a démarré, c'est extrêmement récent en fait. On a oublié ça.
C'est vrai que c'est très récent. D'ailleurs, moi, je regarde les photos de mes parents quand ils étaient jeunes avec leurs copains, mais ils étaient tous filiformes.
J'imagine que c'était avant les années 80.
C'était avant les années 80.
Mais par rapport à ce rapport de 1 à 10 sur les pauvres et sur les riches, auparavant, les riches vivaient moins longtemps que les pauvres parce qu'ils mangeaient trop.
Et c'était inverse.
Ils mangeaient trop et mal.
Alors,
ils
avaient, c'est pas tout à fait faux parce que le diabète, c'était appelé à l'époque la maladie des princes, je m'en rappelle.
Non, mais en fait, à l'époque, ce qui se passait, c'est que les plus pauvres mouraient de maladies infectieuses parce qu'ils étaient sous-nutris. Et donc, en fait, chaque fois qu'il y avait une maladie infectieuse qui déferlait sur les populations, les gens, ils étaient à la limite de la subsistance, et tous les gens qui étaient sous-nutris, du coup, ils avaient un système immunitaire qui était moins performant, et ça balayait, en fait, tous les gens les plus fragiles. C'est ce qu'on appelait le malthusianisme. Hein. C'est-à-dire que l'agriculture arrivait à peine à nourrir les populations. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une vague infectieuse, en fait, ça tuait les gens. Et les gens, ils n'avaient même pas le temps, en fait, de... faut savoir que quand on était avant les débuts du siècle, la mortalité infantile, elle était extrêmement importante. Au 19e siècle, c'était un enfant sur quatre qui mourait avant l'âge de 1 an. Donc, on est passé d'une ère de la survie à une ère où, effectivement, bah, les gens mangent à leur suffisance. Il y a eu les antibiotiques. Donc, toute la maladie infectieuse qui était le premier tueur a été balayée, et ça a donné effectivement l'épidémie, les gens ont pu vivre jusqu'à 50-60 ans, et c'est là la grande période effectivement de la maladie cardiovasculaire, et puis là maintenant on est plutôt dans l'ère du cancer, et puis dans l'avenir on sera encore plus dans l'ère de la maladie d'Alzheimer, de toutes les démences neurodégénératives, mais les pauvres sont toujours morts avant les riches, hein. Pas du diabète, mais d'autres choses.
Alors statistiquement, je suis certain que Martin a raison. Hein. C'est un peu le domaine de Martin. Et effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour un pauvre de vivre en bonne santé. Je pense que j'ai énormément de patientèle, de clientèle, il faut que je dise clientèle, qui ont très très peu de moyens et pourtant ils essayent de faire du sport. La sédentarité, c'est un problème et ce n'est pas quelque chose qui coûte. Hein, d'avoir une paire de baskets et d'aller cavaler un petit peu, c'est pas quelque chose qui coûte. C'est vrai que de faire attention à son alimentation, là aussi, c'est vrai que la praticalité est un problème. Par exemple, vous avez bossé toute la journée, vous rentrez à la maison, vous n'avez pas envie de vous embêter à cuisiner, vous prenez un plat préparé et basta. Mais en fait, la croissance qu'il y a sur la nourriture transformée plutôt que de faire une nourriture avec des aliments bruts, là aussi, il y a une différence cruciale au niveau de la santé. C'est des données qui viennent des États-Unis, de Hélène Langevin, qui a fait des études fantastiques sur ces choses-là. Donc, je pense que la bien manger, bien bouger, bien se respecter aussi, c'est quelque chose qui est à la portée de toutes les bourses.
Mais en fait, c'est exactement ce qui... C'est très discuté en ce moment, parce que le ministre de la Santé américain, Kennedy, lui, il a fait en fait de son programme son programme en fait présidentiel, hein, pour être soutenu par le président Trump, lutter finalement contre le sucre ajouté notamment, ouais, et toute la malbouffe. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'en fait la prévention, elle est efficace, et c'est ce que dit la littérature scientifique, quand c'est des règles qui sont appliquées à l'échelle nationale. C'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté, la seule manière que vous avez finalement de bien faire de la prévention, c'est qu'au niveau national, en fait, bah, par exemple, on ne puisse plus mettre de sucre ajouté dans les jus de fruits, par exemple. Et vous buvez, vos enfants boivent du jus de fruits. Ou que vous ne pouvez plus avoir de pub à la télé pour la pâte à tartiner avec plein d'huile de palme entre deux dessins animés. Voilà. Moi, je crois à cette prévention-là, qui est une prévention de régulation, parce qu'elle a montré son efficacité et elle est, quelle que soit la couche sociale. Et là où je suis plus sceptique, c'est sur la prévention individuelle où personne par personne, on va lui dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Parce que moi, je pense que si on ne modifie pas l'environnement des gens, en fait, on aura du mal à influencer la façon dont ils se comportent. Alors après, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais si vous enlevez un facteur négatif, en fait, il va être emmené vers un autre facteur négatif. Parce que les gens vont quand même chercher en fait une satisfaction rapide, et c'est pas faux. C'est pas faux que souvent, une addiction que vous supprimez va se porter sur une autre addiction. Donc, c'est pas si simple. Et donc, il y a à la fois, finalement, une espèce de côté redistributif social qui joue sur la prévention. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent en France. C'est qu'en fait, en France, on a le pays qui est le plus redistributif au monde, d'un point de vue économique. Et en fait, la redistribution financière est la meilleure mesure de prévention pour la santé des gens. C'est-à-dire que rendez les gens pauvres un petit peu plus riches, et à ce moment-là, ils auront une meilleure santé. Et après, je pense que même si vous avez ce déplacement d'une addiction sur une autre, il y a certaines choses sur lesquelles il faut légiférer. Et je pense que sur la nourriture, on ne légifère pas assez. Parce qu'il y a un rapport de force qui n'est pas en la faveur de la réglementation.
Mais vous n'êtes pas pour la personnalisation, donc, de l'approche, alors qu'on est quand même sur une recommandation de personnalisation de la médecine, par exemple, du soin. Et vous, vous n'y croyez pas trop.
Moi, je crois beaucoup à la pyramide de Breslow, vous savez, c'est-à-dire vous avez les besoins fondamentaux, et puis après, une fois que vous avez réglé les premiers problèmes, bah, vous réglez les problèmes du dessus, et puis à la fin, en haut, vous avez la santé de l'OMS, c'est-à-dire je suis heureux, je suis dans le développement de mon intellect personnel, j'essaye d'apprendre beaucoup. Bon, je veux dire, si on est à ce stade-là, tant mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que notamment la naturopathie, qui à mon avis, c'est très agréable d'en faire, et je pense qu'elle améliore votre santé. Mais je pense que c'est plutôt quand vous êtes en haut de la pyramide de Breslow que quand vous êtes tout en bas. Donc je pense que la prévention pour les gens qui sont vraiment en difficulté, ça passe par des mesures fortes et des mesures sociétales. Et plus vous vous élevez en fait et que vous avez réglé un certain nombre de problèmes dans votre vie, plus vous pouvez être ouvert finalement à des approches plus individuelles. Mais j'aimerais bien entendre Patrick sur cet aspect-là.
Dans cette pyramide, c'est vrai, dans la pyramide de Maslow, on voit très bien qu'il faut que le minimum soit accordé, effectivement, ou trouvé pour passer à l'étage supérieur. Donc c'est vrai que si on a quelqu'un qui fume, qui boit et qui est en train de scroller toute la journée et qui travaille et qui n'a pas d'autres choses, d'autres perspectives, ça va être très très compliqué de lui faire faire du développement personnel parce que c'est de ça dont il s'agit. Et quelque part, il s'agit aussi d'une certaine responsabilité. Je pense que, et d'ailleurs, vous en aviez parlé il n'y a pas très longtemps dans votre podcast, qu'on doit assumer de plus en plus le poids qu'on a et la responsabilité qu'on a sur notre santé. Rien que ça, c'est de la personnalisation. Il y a des gens qui disent « bon, mais moi, ce n'est pas mon truc de courir, mais par contre, je peux aller nager. » Ou « moi, mon truc, ce n'est pas, d'aller de bosser jusqu'à 22 heures, c'est de bosser un petit peu moins, mais de travailler plutôt le matin. » En fait, il y a vraiment une adaptation de chacun de manière à avoir un rythme biologique serein où on a un corps qui marche comme il faut. Donc effectivement, je suis d'accord, si on n'a pas le minimum, on reste en bas de la pyramide.
Exactement. Et je pense que ce qu'il faut dans la vie, dire aux gens, c'est essayer de régler vos problèmes les plus urgents pour pouvoir après justement faire en sorte que votre vie soit meilleure. Et là où je trouve que la naturopathie est intéressante, c'est qu'en fait, elle considère qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver dans la vie et qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont considérées comme des maladies qui sont issues de ce déséquilibre. Et ça, je veux dire, il n'y a pas que les naturopathes qui le disent. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis psychiatres qui disent que la part psychosomatique en psychologie, elle est très importante. Vous prenez des maladies de la peau comme l'eczéma, le psoriasis, il y a une part psychologique et de stress qui est très importante. Tous les troubles, c'est la première maladie digestive, hein, les troubles fonctionnels intestinaux, le fait d'avoir mal au ventre, de ne pas réussir à digérer, d'avoir l'impression d'être en permanence gêné. Et là, c'est vrai que c'est très probablement un équilibre de vie qu'il faut réaxer. D'ailleurs, j'ai des amis psychiatres qui disent aussi que la chose qui marche le mieux, finalement, en psychothérapie, quelque part, c'est du coaching. C'est-à-dire d'expliquer aux gens qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur corps et avec leur esprit, et qu'il y a certaines choses qu'ils font qui vont payer. Quoi.
Mais ce qui prouve que la prévention, ça fonctionne. Si le coach, avec des conseils, permet de développer moins de maladies, c'est que la prévention fonctionne. Mais on fait souvent l'allégorie de la voiture, l'entretien de la voiture. On dit, voilà, la voiture, on n'attend pas qu'elle soit en panne pour faire le niveau d'huile, le niveau de, etc., etc. Mais que ce soit une Ferrari ou une Renault 5, on la fait quand même, la révision. Donc il y a quand même cette prévention automobile. Est-ce que ça s'applique? Puisque vous, Patrick, vous êtes plutôt en dire qu'on récompense, c'est pas vraiment... on ne récompense pas la santé, on récompense la maladie plutôt.
Ben aujourd'hui, c'est ça le problème structurel ou le frein structurel à la prévention. Il est que dans l'acte de soin d'un médecin, le médecin il va soigner quelqu'un de malade. Il n'est pas payé pour dire à quelqu'un de manger plus de salade ou d'aller faire un footing. Il est vraiment payé parce qu'il a une salle d'attente pleine, hein, et qu'il est payé pour soigner quelqu'un de malade.
Je suis d'accord avec ça, mais and so what, j'ai envie de dire, le médecin, il n'est pas formé pendant 10 ans pour faire du coaching de vie saine à des patients. Moi, j'ai fait les études de médecine, et puis j'ai refait des études derrière. Ce qu'on apprend, c'est la physiopathologie, c'est-à-dire quand il y a vraiment un problème qui est détecté, comment on fait finalement pour le réparer. Et donc c'est pas au médecin de faire de la prévention. Ça, moi, je l'ai toujours dit.
C'est ça.
La prévention, il y a deux types de personnes.
On est d'accord.
C'est là où il y a cette vision intégrative de la santé où le médecin doit travailler ou peut avec un naturopathe, avec
il doit savoir passer
un
la
professionnel
main.
Du bien-être pour passer ouais. la main et être dans une action complémentaire.
Mais le médecin aujourd'hui, il est dans une, c'est compliqué pour lui parce qu'il faut qu'il se repositionne. Et le problème, c'est que c'est vrai que le système de santé, de façon générale, parce qu'il est bloqué d'un point de vue financier, part au plus urgent et donc part effectivement sur la maladie et le fait de s'occuper des gens qui en ont besoin tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un besoin sur la prévention et le fait de mieux vivre. Mais après, la question qu'on peut se poser, elle est encore plus large, c'est demain, quels sont les secteurs économiques qui vont se développer? Et ça, je trouve que c'est un... Voilà, où les gens vont mettre leur argent? Est-ce qu'ils vont mettre leur argent, ça il y a des économistes qui le disent, sur leur maison, leur immobilier? Est-ce qu'ils vont mettre leur argent sur acheter des choses, donc la société de consommation, dont acheter des produits? Donc il y a des gens qui disent qu'en fait les produits vont coûter de moins en moins cher parce qu'il y a l'IA et la robotique et qui fait qu'en fait bah, ça, comme déjà c'est le cas aujourd'hui, hein, un ordinateur,
même une voiture,
ça coûte, ouais, mais ça coûte de moins en moins cher parce qu'en fait c'est ultra automatisé. Et donc finalement, ce qui va intéresser la vie économique, bah, moi je pense que c'est tout ce qui est lié à la santé, mais la grande santé. Mais par contre, on ne va pas pouvoir prendre tout ce secteur économique et le mettre dans la sécurité sociale. Donc ça, c'est inimaginable. Donc en fait, le hiatus qu'il y a en France, mais dans plein de pays développés, c'est voilà, qu'est-ce que fait la sécurité sociale et la maladie et tout le reste, en fait, où est-ce qu'on le met? Et comment on le gère avec des assureurs privés?
Pour imager ça, parce que j'ai vécu longtemps aux États-Unis et puis mon ex-belle-famille était de Brooklyn. Donc c'est noir américain, pauvre. Et dans les années 90, c'est vrai que dans Brooklyn, on ne pouvait pas avoir de nourriture bio, on ne pouvait même pas, l'eau coûtait beaucoup plus cher que le coca. Ouais. Donc évidemment qu'il y avait 75 ou 76% de gens obèses. Mais parce qu'ils n'avaient pas accès, en fait. Il y a eu une volonté, il y a eu des groupements sociaux, on va dire, ce qu'on appelle les gangster gardeners, un truc comme ça, les jardiniers gangsters, qui ont commencé à prendre tous les espaces et tous les toits. Et aujourd'hui, il y a des fermes à Brooklyn qui sont gigantesques sur tous les toits. Donc tous les toits ont été végétalisés, mais il y a des fermes sur plusieurs hectares. Quoi, hein. Il y a plusieurs hectares de fermes à Brooklyn. Aujourd'hui, on a des produits bio. À un point où, là aussi, il y a eu le politique a pris le relais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les food stamps, les timbres alimentaires.
Oui, bien sûr. Oui.
Et en fait, l'État de New York, si quelqu'un qui reçoit des food stamps parce qu'il n'a pas d'argent, donc qui reçoit en gros, c'est 250 $ par personne en timbre alimentaire, eh ben, la ville de New York, si on dépense ça sur un marché à Brooklyn local bio, eh ben, il double le nombre de points. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 500 $
c'est
debout. Circuit court à New York, mais c'est quand même une intrication d'un travail social qui était nécessaire, parce que justement les gens vivaient un peu compartimentés dans leur coin, ils se sont rassemblés, ils ont décidé, à la mode gangster, de prendre tous les espaces pour cultiver, et ils ont fait des choses extraordinaires, mais ça a créé une communauté, et maintenant cette communauté, elle est aidée par le pouvoir politique qui a donné plus de moyens.
Donc c'est intéressant parce que tout à l'heure, Martin, vous disiez qu'il faut une politique, une vraie politique pour changer un petit peu les choses et être dans une prévention active et efficace. Mais là, Patrick, vous dites que la politique, elle doit peut-être avoir le bras un peu tordu par une organisation déjà qui passe par une prise de conscience peut-être individuelle, qui va vers la communauté et qui implique après les politiques.
En fait, je pense qu'on change d'air aussi, c'est-à-dire qu'avant, les politiques de gauche, leur mission, c'était de donner de l'argent pour pouvoir plus consommer, peu importe ce qu'on consomme. Et je pense qu'en fait, la santé a montré, on a regardé la santé publique, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'avait pas du tout amélioré la vie des gens les plus pauvres, ça les avait rendus obèses, addicts à toutes les substances, malheureux, stressés. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une révolution, mais même à gauche de l'échiquier politique, on dit non, mais en fait, il ne suffit pas de donner de l'argent, il faut rendre la vie meilleure. Et ça ne peut pas que passer par, effectivement, la partie financière. D'où le développement de cette pensée qu'il faut réussir à leur changer leur environnement, mais qu'on ne peut pas simplement faire d'échecs. Donc je pense que ça, c'est le cœur, en fait, du débat politique de demain. Effectivement, les actions, elles doivent aller dans ce sens-là.
Alors, qui doit faire de la prévention? Et comment la financer? Ce sera la semaine prochaine, ou très vite, dans l'émission Super Pouvoir, puisqu'on enregistre dans les conditions du direct, mais on va faire plusieurs émissions. Et donc, Martin, je vous demande pas si vous serez là avec nous la semaine prochaine. Vous serez là de facto, mais on poursuivra cette conversation. Je sens que vous êtes en train de fléchir un peu votre avis.
Je vous laisse convaincre.
Bon allez, c'est le retour de la musique si vous nous suivez sur Nutri Radio et puis sur Nutri TV. On revient avec une autre émission Super Pouvoir. Merci Patrick. Est-ce que vous pouvez terminer cette émission comme d'habitude?
Oui, parce que je pense que justement, ce qu'on a montré aujourd'hui, et c'est ce que je disais au début, c'est que la disputation, le débat contradictoire, en fait, on peut arriver à de la convergence avec des points divergents, et ça, mes amis, c'est un véritable super pouvoir.
Super pouvoir, Patrick Martini, sur Nutri Radio.